Mes mains tremblent encore, même si ça fait déjà presque 2 heures que je me suis retrouvée nez à nez avec Atlas. Je ne sais pas si je tremble parce que je suis troublée ou parce que j'avais trop à faire une fois arrivée pour avoir le temps de manger. J'ai eu à peine 5 secondes pour intégrer ce qui s'est passé ce matin et encore moins pour avaler le petit déjeuner que j'avais emporté. Tout ça s'est vraiment passé. J'ai réellement posé à Atlas une série de questions gênantes au point de m'en vouloir jusqu'à l'année prochaine. Il n'avait pourtant pas l'air gêné, lui. Il semblait très heureux de me voir. Et quand il m'a prise dans ses bras, c'était comme si une partie de moi endormie jusque-là s'éveillait soudain à la vie. Mais c'est seulement maintenant que je trouve le temps de m'offrir un petit tour aux toilettes. Et là, maintenant que je me vois dans la glace, j'ai envie de pleurer. Je ne suis carrément pas présentable. J'ai de la carotte plein le chemisier et mon vernis à ongles est à moitié écaillé depuis, disons, le mois de janvier. Non pas qu'Atlas cherche la perfection de ma part. C'est juste que j'ai tellement rêvé de tomber sur lui un jour, mais certainement pas un matin de panique, une demi-heure après avoir été la cible d'un bambin de 11 mois armé d'une cuillère pleine de purée de carottes. Il était si beau. Il sentait si bon. Et moi qui devais sentir le lait maternel. Cette rencontre imprévue m'a tellement secouée qu'il m'a fallu 2 fois plus de temps ce matin pour organiser les livraisons avec le coursier. Je n'ai même pas consulté les mails pour m'enquérir des nouvelles commandes. Un dernier coup d'œil dans le miroir, et tout ce que je vois, c'est une mère célibataire surmenée et épuisée. Je me glisse hors des toilettes et retourne à mes commandes. J'en sors une de l'imprimante. Lis le message à rédiger sur la carte qui accompagnera les fleurs. Jamais mon esprit n'a eu autant besoin de s'envoler ailleurs, donc je suis contente que la matinée soit plutôt chargée. On me commande un bouquet de roses pour une dénommée Greta, de la part d'un certain Jonathan. Le message dit ceci. « Désolée pour hier soir. Tu me pardonnes ?» Je lâche un petit grognement. Des fleurs en guise d'excuse. C'est bien le genre de bouquet que je n'aime pas faire du tout. Je finis toujours par me poser la même question. De quoi peuvent bien s'excuser les gens? Il a loupé leur rendez-vous? Il est rentré trop tard? Ils se sont disputés? Il l'a battu? Parfois, j'ai presque envie d'inscrire sur la carte le numéro d'appel pour violence familiale, mais toutes les excuses ne sont pas forcément liées à des choses comme celles que je subissais à l'époque. Je dois m'en souvenir. Peut-être que Jonathan est l'ami de Greta et qu'il essaie seulement de la réconforter. Peut-être que c'est son mari et qu'il lui a fait une plaisanterie de mauvais goût. Quelles que soient les raisons de ces fleurs, j'espère qu'elles reflètent un geste sympa. Je mets la carte dans l'enveloppe et glisse celle-ci dans le bouquet de roses. Je les pose sur le comptoir des livraisons et fais apparaître la commande suivante quand je reçois un texto. Je plonge sur mon téléphone comme si le message allait s'autodétruire dans les 3 secondes et je fronce les sourcils en voyant mon écran. Il ne provient pas d'Atlas, mais de Ryle. Elle mange des frites ? Je balance une réponse rapide. Oui, mais pas trop cuites. Je lâche mon téléphone sur le comptoir dans un bruit sourd. Je n'aime pas qu'elle mange trop souvent des frites, mais Ryle ne l'a avec lui qu'un jour ou deux par semaine. Donc je fais en sorte qu'elle se nourrisse plus sainement quand elle est avec moi. C'était agréable de ne pas penser à lui pendant quelques minutes, mais son message me rappelle qu'il existe. Et tant qu'il existe, je crains qu'aucune relation, ni même une amitié, ne puisse exister entre Atlas et moi. Comment Ryle le prendrait-il si je commençais à voir Atlas? Comment réagirait-il s'ils devaient se retrouver l'un en face de l'autre? Peut-être que j'anticipe trop, en fait. Je regarde mon téléphone en me demandant ce que je devrais dire à Atlas. J'ai promis de lui écrire après avoir ouvert le magasin. Mais des clients attendaient déjà devant, alors que j'avais à peine sorti les clés de mon sac. Et maintenant que Ryle m'a envoyé ce texto, je me souviens que lui aussi existe dans le scénario de ma vie, ce qui m'empêche carrément d'écrire à Atlas. La porte vitrée s'ouvre, et mon employée, Lucie, finit par entrer. Elle semble toujours tirée à 4 épingles, même quand je devine qu'elle est de mauvaise humeur. « Bonjour, Lucie. » Elle repousse une mèche de son visage, et pose son sac sur le comptoir avec un soupir. « Vraiment !» Elle n'est jamais très cordiale le matin. C'est pourquoi mon autre employée, Serena, ou moi-même, travaillons à la caisse jusqu'à au moins 11 heures, pendant que Lucie s'occupe dans l'arrière-boutique. Elle est bien plus avenante avec la clientèle, après 4 ou 5 tasses de café. Je viens d'apprendre que nos cartons pour placer les invités à table n'arriveront jamais car ils ne se font plus, et qu'il est trop tard pour en commander d'autres. Et le mariage est dans moins d'un mois. Ce mariage a déjà tellement mal démarré que je n'ai même pas le cœur de lui dire de tout laisser tomber. Mais je ne suis pas superstitieuse. Et j'espère qu'elle ne l'est pas non plus. Je hasarde alors. Tu sais, les cartons qu'on fait soi-même, c'est très tendance. Ce genre de travail manuel, je déteste, marmonne-t-elle. Je n'ai même plus envie de me marier maintenant. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis moins longtemps qu'on ne prépare ce mariage. Ça, ce n'est pas faux. On va peut-être tout annuler et aller se marier à Las Vegas. Toi, tu t'es enfuie avec ton fiancé, non? Tu le regrettes? Je ne sais pas à laquelle de ces questions répondre d'abord. Comment peux-tu détester le travail manuel? Tu es fleuriste? Et puis, j'ai divorcé. Bien sûr que je regrette de m'être enfuie avec lui. Je lui tends une série de commandes que je n'ai pas encore regardées. Mais c'était amusant, dois-je reconnaître. Lucie se rend dans l'arrière-boutique et s'attaque au reste des commandes. Et moi, je pense à Atlas. Et à Ryle. Et à Armageddon. Le film qui résume parfaitement ce qui se passe dans mon cerveau occupé par ces deux types en même temps. Je n'ai aucune idée de la façon dont tout ça va tourner. Quand Atlas et moi sommes tombés l'un sur l'autre, c'était comme si tout s'effaçait autour de nous, Ryle y compris. Sauf que maintenant, Ryle recommence à hanter mon esprit. Pas comme il l'occupait avant, plutôt comme un barrage. Voilà que ma vie amoureuse, devenue une sorte de chemin rectiligne et lisse, sans bosse ni ornière, c'est-à-dire inexistante depuis plus d'un an et demi, me fait à présent l'effet d'un chemin rocailleux, bourré d'obstacles et de raidillons. Est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr. Atlas, lui, vaut le coup. Mais nous, est-ce que nous valons le coup? Est-ce que nous valons le stress que cette situation imposera inévitablement à tous les autres aspects de ma vie? Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti un tel conflit en moi. J'aimerais tellement appeler Alissa et lui raconter mon entrevue avec Atlas. Mais je ne peux pas. Elle sait ce que Ryle éprouve encore pour moi. Elle sait ce qu'il ressentirait si je faisais entrer Atlas dans le paysage. Je ne peux pas parler à ma mère, parce que c'est ma mère. Nous avons beau nous être beaucoup rapprochés ces derniers temps, je ne me vois pas en train de discuter librement avec elle de ma vie amoureuse. Il n'y a réellement qu'une femme avec qui je pourrais parler d'Atlas sans aucune retenue. Lucie ? Apparaissant dans l'embrasure de la porte, elle écarte un écouteur de son oreille. Tu as besoin de moi ?
Oui. Tu pourrais me remplacer ici un moment ? J'ai une course à faire. Je serai de retour dans une heure.
Elle se glisse derrière le comptoir et j'attrape mon sac. Comme je n'ai pas beaucoup de temps à moi depuis l'arrivée d'Emerson, il m'arrive de voler une heure par-ci, par-là, lorsque j'ai quelqu'un pour me remplacer à la boutique. Parfois, j'aime m'asseoir et réfléchir. Mais c'est impossible de faire ça avec un enfant, car même quand elle dort, je suis en mode maman. Avec ses allées et venues incessantes dans le magasin, il est rare de trouver un moment de tranquillité sans être interrompu. En revanche, j'ai découvert que seule dans ma voiture avec de la musique et parfois même une part de cheesecake, je parviens à faire le tri dans le bazar qui encombre mon cerveau. Une fois garé face au port de Boston, j'abaisse le dossier de mon siège et saisis le carnet et le stylo que j'ai emporté avec moi. J'ignore si ça me fera autant de bien que le dessert que je m'offre d'habitude, mais j'ai besoin de laisser libre cours à mes pensées, comme je le faisais avant. Une méthode qui m'a bien aidée quand il fallait que je remette les choses en place. Encore que, cette fois, je me contente d'espérer que tout ne parte pas complètement en vrille. Chère Hélène, devinez qui voilà. Moi et Atlas, nous deux. Je suis tombée sur lui alors que j'allais retrouver Ryle avec Amy, ce matin. C'était tellement bon de le revoir. Mais même si c'était super cool de se dire où on en était chacun dans notre vie, ça s'est terminé de façon un peu frustrante. Il avait une petite urgence avec son restaurant, et moi, j'étais en retard pour ouvrir le magasin. On s'est séparés avec la promesse que je lui enverrais un message.